Alors ce matin, il y a la pluie, il y a le vent, les routes glissantes. Et on a mis nos manteaux, nos écharpes, nos bonnets, nos chapeaux, et on est venu au culte. Alors je voudrais vous dire que ça réjouit mon cœur, ça me fait plaisir de vous voir. Chaque dimanche, bien sûr. Et en plus, quand le temps est mauvais comme ça, c'est que ça veut dire que vous avez à cœur vraiment le Seigneur, vous avez à cœur l'Église, vous avez à cœur que l'on soit ensemble et que, ensemble, on se réjouisse de la présence du Seigneur. Alors ce matin, j'avais demandé à Roland de bien vouloir venir. Ouais, alors, oui, il faut venir. J'aime pas être tout seul, alors donc. Alors, Roland va nous faire la première partie de la lecture ce matin, et ensuite c'est Joël qui nous fera la deuxième partie. Merci. Alors c'est Jean.
Jean chapitre 4 et le verset 4 à 26.
Voilà, à partir du verset 4.
Bonjour à tous. Évangile selon saint Jean chapitre 4, verset 4 à 26. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné de ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, voici vous que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « Pourquoi lui parles-tu » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. »
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà les versets clés de ce passage. Je pense que ce passage, Jean chapitre 4, vous l'avez déjà lu, vous en avez déjà entendu parler. Et c'est quelque chose qui, un entretien, c'est plutôt une rencontre que Jésus va faire avec cette femme. On pourrait penser que c'est une rencontre un petit peu banale, mais quand on relit justement ces versets clés, en fin de compte, l'entretien devient beaucoup plus fort. Ce sont des paroles qui replacent la personne devant son interrogation, l'interrogation de sa vie. Et si même elle ne le comprend pas tout à fait, on voit au verset 15, par exemple, quand elle dit « Seigneur, donne-moi à boire, comme ça je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ». Elle ne comprend pas totalement, elle ne comprend pas l'aspect spirituel que le Seigneur est en train de lui dire, mais néanmoins, les versets touchent le cœur de la personne. Alors, on a lu tout le passage, on ne va pas tout étudier, ne vous inquiétez pas, on partira bien à l'heure. Mais on va rester sur la première partie. C'est surtout la première partie que je voudrais exprimer ce matin. Et puis ensuite, la deuxième partie, ben, on le fera à un autre culte, à un autre moment. Parce que c'est extrêmement intéressant ce passage que le Seigneur nous laisse à cœur. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit que là comment ? Il fallait qu'il passe par la Samarie dans une ville qui s'appelait Sichar. Sichar, dans l'Ancien Testament, c'est Sichem. Aujourd'hui, c'est ni l'un ni l'autre, c'est Naplouse, pour ceux qui sont allés en Israël. Et ça se trouve où ? La Samarie. Ça se trouve entre le nord, la Galilée, il y a Samarie, et il y a la Judée, en bas. En Galilée, il y a Nazareth, hein, ou la mer de Galilée, qui n'est pas bien loin. La Samarie, donc, et en bas, la Judée avec Jérusalem. Et souvent, les Juifs passaient de la Galilée à la Judée, ou de la Judée à la Galilée, et vous savez que le plus court chemin, c'est la ligne droite. Normalement. Mais là, le problème de la ligne droite, c'est qu'il fallait passer par la Samarie. Et les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. On l'a souvent dit, mais c'est vrai qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Ils n'avaient pas, ils avaient de la haine entre eux, aussi bien d'un côté que de l'autre. Une haine héréditaire, culturelle, raciale aussi, et tout cela était un obstacle en permanence. Alors, d'où sont originaires les Samaritains? Les Samaritains, ils viennent de à peu près 4-5 siècles avant cette époque-là. Ils ont été envoyés par le roi de Babylone. Nebuchadnezzar, voilà. Je préfère dire le roi de Babylone, c'est plus simple. Et ils avaient été envoyés dans cette région-là. Et les Samaritains, à cette époque-là, ils ont adopté la religion juive. Ils adoraient le même Dieu que les Juifs. Et d'abord, on le voit bien dans le passage, quand la femme samaritaine lui dit « Mais notre père Jacob !» Il y avait des similitudes. Mais ils servaient Dieu à leur façon. Surtout, ils ne le servaient pas à Jérusalem. Vous savez que les Juifs montaient chaque année au moins une fois à Jérusalem. Mais les Samaritains montaient, bon, c'était le sud, on aurait pu dire descendre. Ils ne descendaient pas à Jérusalem. Ils adoraient Dieu en Samarie, sur le mont Garizim, qui se trouve là, en Samarie. Et donc, ils avaient un temple, le temple des Samaritains, on va dire, hein, alors que les Juifs avaient leur temple à Jérusalem. Et d'ailleurs, quand les disciples ont vu Jésus parler avec la femme, alors il n'est pas dit que c'était, au verset 27, il n'est pas dit que c'était la femme samaritaine, mais bon, on s'en doutait, ils étaient en Samarie. Lorsqu'ils l'ont vu parler avec cette femme, et puis au verset 31, il nous est dit, il le pressait de manger, en disant, « Maître, dépêche-toi de manger. Maintenant, on va partir, on va se dépêcher de partir. » C'était presque dans la, on ne peut pas dire dans la coutume, on ne peut pas dire ça, mais c'était comme ça. Il ne s'entendait pas. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, premièrement, Jésus est passé volontairement. Puisqu'il nous dit tout au début, Jésus, fatigué du voyage, il était assis au bord du puits. Les disciples étaient restés un peu à l'écart, ils étaient partis faire des courses, en fin de compte. Ils étaient, je ne sais pas, pas le supermarché, mais pas loin. Et le Seigneur a passé volontairement par la Samarie. Et ça, c'est un des points qu'on doit retenir. C'est que le Seigneur, lorsqu'il nous rencontre, c'est volontairement. Volontairement. Si le Seigneur, il est ici à Marolles, c'est volontairement. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ou meilleurs que je ne sais pas qui, mais le Seigneur vient volontairement. Et il s'adresse à tous les coins du monde. Quand on entend des fois des missionnaires qui sont partis dans certains pays et qui ont subi des attaques ou des choses comme ça, le Seigneur parle néanmoins dans toutes les régions, dans toutes les contrées. Le Seigneur a traversé le ciel pour venir jusque sur la terre. Le Seigneur, il est passé du divin au terrestre. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas nous qui sommes allés à la rencontre du Seigneur. C'est le Seigneur qui est venu à notre rencontre. Alors bien sûr, les uns les autres, nous avons des expériences différentes. Nous avons rencontré le Seigneur dans différentes situations. Et quand on rend les témoignages, on le voit bien. Mais néanmoins, c'est le Seigneur qui est venu vers nous. Alors le premier point que je voudrais souligner, hormis ça bien sûr, c'est que le Seigneur Christ, il est universel et personnel. On le voit dans ce passage. Il est universel. Il ne fait pas de distinction entre les Juifs et les Samaritains. Il ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Il est universel dans ce sens-là. Et en même temps, il est aussi personnel. Vous savez, quand Christ est arrivé au bord du puits, il n'est pas arrivé un quart d'heure plus tard. S'il était arrivé un quart d'heure plus tard, il n'aurait pas rencontré la femme samaritaine. Il est arrivé à l'heure. Vous allez me dire, concours de circonstances? Moi, je ne crois pas. Concours de circonstances. Le problème de cette femme samaritaine, vous l'avez compris, c'est que il était midi. Et vient puiser de l'eau à midi. On ne vient pas puiser de l'eau à midi, surtout dans ces régions-là. Bien souvent, c'est le soir, un peu à la tombée de la nuit, à la fin de la journée, où c'était les femmes, beaucoup, qui allaient chercher, remplir leur cruche, en fin de compte. Ils allaient là. Et puis, c'était le moyen, peut-être aussi, je vais être gentil, de papoter un petit peu ensemble. Hein? Oui, c'est naturel, c'est comme ça. Mais pour cette femme-là, c'était pas du tout ça. Elle ne voulait pas aller le soir. Elle y allait à midi, parce qu'à midi, il n'y avait personne. Il faisait trop chaud. Elle était sûre de ne rencontrer personne. Sauf Jésus-Christ. Sauf le Messie qui est venu. Et quel Messie? Messie qui lui parle. Qui lui pose une question, qui lui dit « Peux-tu me donner à boire ?» Alors, on suppose cette femme samaritaine, quoi, un juif qui me parle? Déjà, peut-être, avant d'arriver au puits, elle a dû se dire, oh, encore un juif. Ah oui, ils ne s'entendaient pas, ils ne se parlaient pas, et surtout, ils ne se disaient pas bonjour, ça ne servait absolument à rien. Et voilà que Christ, qui est assis là, au bord du puits, lui dit, donne-moi à boire. Déjà, elle est surprise. Parce qu'il lui parle, mais elle est surprise de ce que un homme lui demande quelque chose. Bien souvent, c'était tu fais ceci ou tu fais cela. Et là, le Seigneur lui demande, je dirais presque même, il lui demande gentiment, donne-moi à boire. C'était un moyen pour le Seigneur de rentrer dans la conversation. Vous voyez bien qu'après, il lui dit surtout, il va lui parler bien sûr de l'eau vive, parce que Christ, c'est l'eau vive, et d'ailleurs, quand le Seigneur va lui parler ici, la femme, il nous a dit qu'elle a été surprise, bien sûr, parce que les Juifs n'ont pas de relation. Mais Jésus va changer la question qu'il vient de poser, et il va lui dire, je l'avais à l'instant, donne-moi à boire. Oui, Jésus lui répondit, si celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est-à-dire d'une situation matérielle, en fin de compte, on va dire, il va transformer cela sur une situation spirituelle. Et la femme samaritaine, là, ne va rien comprendre. Parce que quand le Seigneur va lui dire, eh bien voilà, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi à boire de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et surtout, que je ne vienne plus en puiser, que je ne vienne plus ici. Parce que dans l'esprit de cette personne, on le comprend, c'était le fait de dire, mais j'ai plus besoin de venir, ni à midi, ni le soir, bien sûr. J'ai plus besoin de rien. Et peut-être que dans son esprit, parce que les Samaritains connaissait l'Ancien Testament. Elle a peut-être pensé à cette femme qui a rencontré Élisée. Vous vous souvenez? Quand Élisée lui a dit « Rassemble toutes les cruches qui sont vides, le maximum, et tu vas pouvoir les remplir. » Alors elle a commencé à remplir la première cruche, et puis après elle est passée à la deuxième, et puis il y avait toujours de l'huile dans la cruche source, quoi, on va dire, et jusqu'à la dernière. Et probablement que cette femme samaritaine a pensé à ça, dire, si tu peux me donner effectivement de l'eau, je vais laisser la cruche à la maison, et j'aurai plus besoin de venir. J'aurai plus besoin de venir à midi déjà, et puis de ne pas venir non plus le soir. Mais là, le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Et il va dire, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. » Aïe. Ah, ça a dû la secouer un tout petit peu lorsqu'elle a entendu ça. Et d'abord, elle a bien répondu, elle a dit, « Mais j'en ai pas, j'ai pas de mari. » Et Jésus lui a dit, « Tu as raison. Ce n'est pas ton mari. D'ailleurs, tu as eu 5 maris avant, et celui qui est avec toi aujourd'hui n'est pas ton mari. » Vous savez, sans doute que cette femme, en fin de compte, elle aurait dû vivre au troisième millénaire. Aujourd'hui, c'est courant, parce qu'on ne connaît pas tout, mais c'est bien souvent courant. Elle aurait été ici au troisième millénaire, elle serait passée inaperçue. Elle aurait pu aller faire ses courses à droite, à gauche, rencontrer qui elle voulait. Peu importe. À cette époque-là, on le voit bien, ce n'était pas le cas. Et l'ange le Seigneur va pointer du doigt son état, son péché. Il faut appeler un chat, son péché. Le Seigneur va mettre le doigt dessus. Et en fin de compte, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné à boire de l'eau vive qui vient de lui, du Seigneur. Et j'espère, je pense que quand vous avez accepté Christ, vous avez pris cette eau que le Seigneur vous donnait. Et vous avez été transformé, vous en êtes conscient. Mais en même temps, le Seigneur met le doigt sur le péché. Moi, je ne connais pas vos péchés, je connais les miens, je ne connais pas les vôtres, mais le Seigneur le connaît. Parce que, quand cette femme a dit à Jésus, « Je n'ai pas de mari », qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il dit, « Oui, tu n'as pas de mari. Le mari que tu as en ce moment, ce n'est pas ton mari, puis tu en as eu 5 avant. » Ça veut dire que lui, le Seigneur, connaît la situation des uns et des autres. Même si on ne lui dit pas tout ce qu'on a fait, tout ce qui nous détruit, lui, le Seigneur, le sait. Et le Seigneur met toujours l'accent sur le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le péché, déjà. Il ne peut pas apprécier le péché. Mais en plus de ça, comme dit l'Écriture, si tu confesses ton péché, je suis fidèle et juste pour te pardonner. Nous devons confesser notre péché. On ne peut pas simplement, oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette eau vive qui vient de toi. Tu as rempli mon cœur. Et maintenant, je continue à faire comme bon me semble. Je suis je viens le dimanche, par exemple, pour t'adorer, pour te louer, pour chanter. Mais le reste de la semaine, je continue à faire ce que bon me semble. Ça, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et ce passage nous montre que lui, le Seigneur, connaît toutes choses. Au verset 10, Il est dit, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu. » Vous savez, le Seigneur sait lorsqu'on a besoin de physique. Physiquement, on a besoin de cela, mais ce qui compte pour le Seigneur, c'est le besoin de l'âme. C'est que nous ayons soif de paix, de bonheur, de sécurité, d'amour, de salut. Vous savez, la vie de l'homme en général, c'est l'étanchement de cette soif. Il y a besoin d'être comblé par le Seigneur. C'est Pascal qui disait que dans le cœur de tout homme, il y a un vide qui est en forme de Dieu. Et quand les hommes, en général, quand les hommes refusent Dieu, ça va un temps. Ils prennent tous les plaisirs du monde, tout ce qu'ils peuvent emmagasiner et tout, prendre, acheter. Et quand ils arrivent au terme de leur vie, je dirais, il y a un vide. Et le vide n'est pas comblé. Parce que le seul qui peut combler le vide de tout à chacun, et donc de cette femme aussi, c'est Christ, c'est le Seigneur lui-même. La femme, elle est restée un petit peu du côté matériel. Elle a regardé un petit peu ce qui pouvait lui aller. Vous savez, le puits, là, je me suis renseigné un peu, le puits de Jacob, là, enfin sur le terrain en Samarie, le puits faisait 2,70 m de diamètre. Ouais, c'est déjà un puits qui était grand. Et non seulement ça, c'est que l'eau se trouvait à environ 32 mètres de profondeur. Donc c'était un puits qui avait sa renommée, et les gens qui venaient là voyaient l'avantage de ce puits, l'avantage de la foi, comme étant quelque chose d'indispensable. Mais le Seigneur, lui, ne l'a pas regardé comme ça. Bien sûr, il a vu qu'il y avait le puits, qu'il y avait l'eau, il y avait tout ça. Mais ce qui lui importait, c'était que la vie de cette personne, la vie de tout un chacun, soit mise en règle devant le Seigneur. Et vous savez, quand le Seigneur nous montre, encore une fois, notre péché, notre situation, il y a naturellement le fait de ne pas se tourner vers le Seigneur. On n'aime pas le péché, comme Christ n'aime pas notre péché, mais on le met de côté. On n'en parle pas. On l'exprime pas. On l'exprime même pas au Seigneur. On lui demande même pas pardon. On essaye de trouver un échappatoire. Ça, c'est humain. C'est naturel. Et même en tant que chrétien, qu'enfant de Dieu, on a des échappatoires. On a des échappatoires. Et là, quel a été l'échappatoire ? Ça, on le retrouve bien souvent auprès de tout le monde. L'échappatoire, c'est la religion. Mais je suis de telle religion. On a dit que tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas ? Je suis protestant, je suis catholique, je suis adventiste, je suis évangélique, je suis de l'église de Marolles, voilà. C'est bien souvent l'échappatoire auprès du Seigneur. Seigneur, c'est vrai que, oui, d'accord, j'ai 5 maris et tout, mais je me tourne, je m'éloigne en tout cas, de toi. Et regardez au verset, je crois que c'est le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne.
Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur la montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le Seigneur a été direct, direct. Le salut vient des Juifs. Bien sûr, Jésus était juif. Les Juifs étaient le peuple qui avait été choisi par Dieu pour se révéler au monde. Donc, obligatoirement, le salut vient des Juifs. Non pas de ce que les Juifs pensent, les Juifs font, les Juifs espèrent, c'est comme ça. Mais le salut, Christ, était juif et il venait des Juifs. Le Seigneur n'a pas dit que toutes les religions sont bonnes à la femme samaritaine. Il lui a pas dit que il y a d'autres noms par lesquels on peut être sauvé. Loin de là, dans Actes au chapitre 4, verset 12, je crois, ça, il nous a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Les vrais adorateurs adore le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On voit ça parfois dans les églises, ce verset. Hein, vous avez peut-être déjà vu ça. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Des fois, on dit, c'est pas quand on sera à la rencontre du Seigneur au ciel, on va lui dire, mais toutes les églises évangéliques que j'ai fréquentées, elles étaient bonnes, il y avait des bonnes. J'étais un bon évangélique, un bon baptiste. Le Seigneur, c'est pas ça qu'il regarde. Ce n'est pas ça qu'il regarde. Est-ce que tu as été un vrai adorateur? C'est-à-dire, est-ce que moi qui t'ai donné l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, moi qui t'ai dit que tu étais pécheur et qui t'ai demandé de confesser ton péché, est-ce que maintenant tu m'adores en esprit et en vérité? C'est ça, être chrétien. C'est cela, vivre avec le Seigneur. Dans Jean, au chapitre 7, c'est trois chapitres plus loin, verset 37, il est dit « Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Qui va jaillir en nous, ou qui doit jaillir en nous, si nous laissons la place au Seigneur. Il est vivant, c'est pas un esprit mort ou un esprit comme ça. Mais c'est l'Esprit du Seigneur qui est en nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur nous a tout donné en Christ. Il nous a tout donné. C'est à nous de prendre le temps, enfin, prendre le temps de cela pour vraiment saisir, pour vraiment marcher vraiment avec lui. Des fois, je me dis que le Seigneur nous a vraiment tout donné en Christ et nous ne nous en rendons pas toujours compte. Nous pensons que l'accepter, accepter Christ, c'est-à-dire le reconnaître comme étant le Seigneur et le Sauveur, c'est suffisant. Mais non, c'est marcher avec le Seigneur qui est suffisant. Confesser son péché et vivre par l'Esprit de Dieu. C'est à cela, je crois, que nous sommes encouragés, appelés les uns les autres à voir. Vous savez, cette femme samaritaine, elle était seule, en fin de compte. Elle était seule. Lorsqu'elle venait au puits, elle venait avec sa solitude. Elle venait avec son libertinage. Elle venait parce qu'elle ne voulait voir personne, surtout. Et donc, elle ne pensait pas, bien sûr, voir Christ. D'ailleurs, elle l'a reconnu un petit peu plus loin quand elle lui dit « Mais je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, au verset 26, « Je le suis, moi qui te parle, le Messie. Je le suis, moi. » Vous savez, dans l'Évangile de Jean, vous connaissez tout autant que moi, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis, c'est Christ. » Voilà ce qu'est Christ, ce que doit être Christ pour nous. Ben, c'est ce qu'il est. Mais ce qui doit prendre vraiment force en nous. Je le suis. Et alors, là, on n'a pas le temps, mais on pourra voir une fois prochaine, c'est que dans le reste du texte, elle est rentrée de nouveau, elle est repartie dans sa maison, hein, dans sa ville à côté. Elle a laissé la cruche au bord du puits. Et alors elle est revenue avec les gens qui habitaient autour d'elle. Venez voir celui qui m'a dit. Elle a rendu témoignage aussitôt. Parce que quand on rencontre le Christ, on ne reste pas la bouche fermée. Pas possible. Viens voir, venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est l'histoire de cette femme samaritaine, c'est que quand quelqu'un est seul, quand quelqu'un est seul, le Seigneur vient le combler de toute sa grâce et de toute sa puissance. Il est là pour remplir le vide en nous. Alors moi, je me pose la question, pour moi-même aussi, pour chacun d'entre nous, où est-ce qu'on en est vraiment avec le Seigneur? Est-ce qu'il est simplement, je ne vais pas dire un copain, mais un ami. Un ami qui est là, à côté, en qui on croit, en qui on espère, mais sans plus. Sans plus. Est-ce qu'il est la source d'eau vive? Puisqu'il est dit au verset 14, hein, n'est-ce pas, on l'a lu, « Quiconque boit de cette eau encore soit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Est-ce que c'est votre cas? Alors, jamais soif. Soif spirituellement, bien sûr. Et ces interrogations, le Seigneur nous les met devant nous, il nous les pose. Est-ce que le Seigneur a vraiment la place, la première place qu'il doit avoir? Est-ce que je me repose vraiment totalement sur lui pour marcher, pour avancer, pour être un enfant, un fils fidèle, un enfant fidèle avec lui? Voilà en gros à peu près ce passage de cet entretien, cette rencontre que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Je remarque que le Seigneur ne lui a pas reproché d'avoir eu cinq maris. Il n'a pas fait une remontrance particulière. Il a simplement dit, ça c'est ton péché. À toi, c'est ton péché. Il lui a demandé de confesser son péché, d'abandonner son péché et de lui faire confiance. Et je crois que pour nous, nous tous, tout à chacun, en fin de compte, c'est cela. Le Seigneur nous aime totalement au point de nous donner sa vie, d'être pour nous une source d'eau vive qui jaillit, mais en même temps, il nous demande de ne pas continuer à vivre dans le péché. Ne pas continuer à vivre dans le péché, à lui confesser son péché, à confesser notre péché et à compter sur le Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça, il faut l'accepter. Fidèle et juste. Si tu confesses ton péché. Alors que le Seigneur puisse nous aider ce matin, les uns les autres, à nous placer devant sa face et à attendre, à espérer en lui cette vie, Seigneur, avec lui. Parfois, vous savez, le Seigneur nous met devant différentes situations. Ça peut être la maladie, l'accident, échec à un examen. J'ai même mis trahison de la petite amie. Ah, ça peut être le petit ami aussi. Hein. Mais ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Le Seigneur permet ces situations-là pour nous faire comprendre qu'il est la source d'eau vive. Sinon, on ne le saisit pas. C'est tout à fait ça, la femme samaritaine. Elle était seule. Et le Seigneur est venu se révéler à elle. Parce que le Seigneur, il se sert toujours de ça. Et même, j'avais noté aussi, ne pensons pas que le Seigneur va se révéler à nous quand tout va bien. Des fois, on voudrait que le Seigneur se révèle à nous dans telle situation, je suis sur ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Regardez l'apôtre Paul. Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul ou sur le chemin de Damas. Quand Paul était rempli de haine à l'égard des chrétiens, lorsqu'il était rempli de haine, rempli de, je sais plus comment j'ai noté, rempli de révolte, il respirait la haine. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est adressé à lui. Le Seigneur s'adresse à nous quand il veut. Il s'adresse à nous quand il le décide. Des fois, nous, on voudrait rencontrer le Seigneur dans telle circonstance, quand ça va bien, ou choses comme ça. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Mais dans notre difficulté, dans notre malheur, le Seigneur se révèle pour nous transformer. Et la gloire lui revient. Parce qu'on sait que notre vie, en fin de compte, sera merveilleuse et changée par le Seigneur au moment où ça va, au moment où ça va pas. Prions donc quelques instants le Seigneur. Seigneur, ta parole est merveilleuse parce qu'elle nous rappelle avec force que tu es un Messie qui transforme nos vies. Tu es celui, Seigneur, qui nous restaure. Tu es celui qui nous pardonne. Tu es celui, Seigneur, qui nous comble de tes richesses. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui te cherchons, c'est toi qui nous as cherchés. Et Seigneur, tu as voulu que nous soyons vraiment entouré par toi, vraiment comblé, Seigneur, par toi. Parfois, Seigneur, nous ne nous en rendons pas toujours compte, nous ne voyons pas toujours le pourquoi et le comment, mais toi, Seigneur, tu le sais. Toi, Seigneur, tu nous connais parfaitement. Et parfois, Seigneur, à travers nos difficultés, à travers nos malheurs, à travers nos peines, tu as toujours, Seigneur, quelque chose de merveilleux à nous annoncer. Tu as toujours quelque chose, Seigneur, d'extraordinaire à nous révéler. Non pas, Seigneur, pour nous, simplement, mais pour notre communion avec toi, pour notre relation avec toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous reposer, Seigneur, sur toi. Et si nous voulons faire de grandes choses pour toi, si nous voulons être un bon témoin pour toi en toutes circonstances, eh bien, Seigneur, tu nous aideras. Tu prendras soin de nous. Tu te révéleras à nous. Tu nous montreras, Seigneur, que marcher avec toi, Seigneur, c'est une grâce. C'est quelque chose de merveilleux, Seigneur. Et je suis sûr que nous tous qui sommes ici, si nous t'avons accepté, nous le savons, Seigneur. Nous ne regrettons pas d'avoir accepté Christ à un certain moment. Aide-nous, Seigneur, à confesser notre péché, si nous en avons. Aide-nous, Seigneur, à mettre en règle notre vie avec toi et que nous puissions devenir de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et que ton nom, Seigneur, soit béni et loué dans nos vies. En Christ. Amen.